Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le premier numéro de Do It The Right Way, le podcast qui donne de la voix à l'UX Writing et qui vous aide à mieux comprendre la discipline et son impact positif sur l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que l'UX Writing? Sur quoi travaille-t-on? Quel est l'apport de l'UX Writing sur la qualité de l'expérience utilisateur? Qui fait l'UX Writing? Peut-on mesurer son impact sur la performance de l'UX et du produit? Comment intégrer l'UX Writing dans les processus de conception? Quelques-unes des questions auxquelles je tâcherai d'apporter une réponse au fil des épisodes de ce podcast. Tous les mois, je donnerai ainsi la parole à des organisations et à des professionnels passionnés qui font vraiment bouger les lignes. Et elles sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses. Pour ce premier podcast, je vous propose d'aller voir ce qui se fait du côté d'AXA, groupe international leader dans les métiers de l'assurance. AXA a mis le pied à l'étrier de l'UX Writing dès 2016. C'est dire si la société fait figure de précurseur en la matière. À l'époque d'ailleurs, on ne parlait pas d'UX Writing, ni chez AXA, ni chez les autres sociétés qui faisaient déjà intervenir des compétences éditoriales aux côtés des UX designers. Pour vous présenter l'expérience d'AXA en matière d'UX Writing, je suis allé à la rencontre de Yann Laloum, qui est responsable éditorial au sein de la Content Factory AXA.fr et UX Writer. Bonjour Yann, merci de te prêter à l'exercice pour le lancement de ce podcast. Peux-tu nous dire qui tu es et comment tu es tombé dans le grand bain de l'UX Writing?
Merci Christophe pour ton invitation. Très heureux d'inaugurer ce podcast. Déjà, je vais te parler un petit peu de mon parcours sans faire ma bio non plus. Donc, je viens des métiers de l'écrit. J'ai fait du journalisme, j'ai été rédacteur multifonction dans de nombreuses agences, puis chef de projet et puis chef de projet digital. Et je suis aujourd'hui responsable éditorial au sein de la Content Factory. L'UX Writing, contrairement à Obélix, je ne suis pas tombé dedans depuis que je suis tout petit. C'est vraiment depuis que je suis chez l'annonceur que je travaille avec plus d'acuité sur les problématiques d'interface et de parcours. Auparavant, j'étais quand même plus côté production et coordination de projets éditoriaux. Mais l'UX Writing, pourquoi? Parce que construire un site, une interface, un parcours de souscription, c'est pas seulement un sujet IT, business ou design. Il faut aussi adresser les bons messages au bon moment à l'utilisateur pour qu'il puisse s'engager en confiance dans une série de tâches qu'on va lui demander d'accomplir. Et surtout, miser sur le fait que sa capacité d'attention n'est pas limitée. Donc, on doit au maximum lui faciliter la route. Et là, l'édito reprend tout son sens parce qu'on est sur des mots, on est sur des messages, on est sur des nuances, on est sur à peu près tout ce qui constitue la sève de notre métier.
Deuxième question, c'est une question que je poserai à chacun de mes invités. En trois mots, quelle est ta définition ou vision de l'UX Writing?
C'est une excellente question, Christophe. C'est un domaine neuf, mouvant. Donc moi, j'ai vraiment une définition, mais plus côté utilisateur. Un utilisateur sur un parcours, qu'est-ce qu'il aime? Il aime quand un plan se déroule sans accroc, comme disait Hannibal dans l'agence Tourisque. Donc l'idée de l'UX Writing, c'est d'accompagner cet utilisateur, de ne pas le perdre en cours de route et de lui dispenser les bons messages.
Tu interviens au sein d'une cellule dédiée au contenu. Donc comment êtes-vous organisé au sein de cette entité? Êtes-vous intégré donc avec les équipes UX, UI? Quelles sont tes actions? Avec qui travailles-tu au quotidien?
Effectivement, je travaille au sein d'une équipe dédiée au contenu, la Content Factory, qui assure l'alimentation du site AXA en articles originaux valorisant l'expertise et l'offre produit de l'annonceur. Notre équipe, sa mission première, en tout cas originelle, c'est d'abord d'écrire du contenu, de rédiger du contenu spécifique, expert et pédagogue pour alimenter le site AXA et pour aider le client à choisir en confiance le bon produit d'assurance. Et pour ça, on travaille avec tous les acteurs traditionnels du chaîne de production de contenu, hein, web marketing, expert, métier, direction juridique. De plus en plus, nous montons sur des problématiques du UX Writing. Et c'est très intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que sur un parcours, sur une interface, les mots sont très limités. On n'est pas sur des contenus de 5 feuillets. Justement, adresser les bons messages au bon moment, changer un mot par un autre, peut parfois avoir des conséquences directes sur les taux de conversion, sur les taux de transformation, et donc des impacts business mesurables, ce qui est très intéressant, alors que le contenu est un petit peu plus difficile à appréhender en termes de KPI.
Alors sur les problématiques du UX Writing, comment est-ce que tu travailles au quotidien? Comment est-ce que tu interviens?
Sur ce type de sujet, X-Writing, c'est vraiment un travail collaboratif. Dans un premier temps, c'est une collaboration resserrée que nous mettons en place dès le lancement du projet avec l'UX Designer. Sur la base d'un cadrage précis, d'un brief, on confronte déjà nos idées, nos benchmarks, ce qu'on a vu à droite à gauche chez la concurrence, et ce, avant même de poser un premier coup de crayon sur un wireframe. Le but, c'est que le sens drive la réflexion en amont et que nous, UX Writer, on se retrouve pas en bout de chaîne à chasser les coquilles et les répétitions dans des wireframes qu'il n'y a plus qu'à tamponner. Alors ce premier travail est très important, pourquoi? Parce qu'il nous permet de nous forger des convictions communes que l'on pourra défendre auprès du porteur de projet. Pose déjà des idées sur lesquelles on est en phase et qui nous permettront d'itérer par la suite. Donc ça se traduit par quoi en termes de livrables? Ça se produit pas tout à fait encore par des wireframes finalisés, mais par ce qu'on va appeler des proto-wireframes, qui portent un wording qui est non définitif, mais qui n'est pas pour autant du lorem ipsum. C'est déjà structurant. Et cette copie s'enrichit ensuite au fur et à mesure des itérations, sans perdre de vue les objectifs initiaux que nous nous sommes fixés.
Yann, lorsque tu endosses la casquette du X-Writer, sur quel type de projet travailles-tu? Comment organises-tu ton travail en collaboration avec les UX designers? Quels sont tes outils et tes méthodes?
Pour te répondre, l'organisation du travail avec les UX designers dépend de la typologie des projets qu'on adresse. Et quels peuvent être ces projets? Je t'ai fait une petite liste, mais c'est vraiment pas exhaustif. On a ce qu'on appelle tout d'abord les micro-actions. Ça va être changer un CTA pour qu'il performe mieux, améliorer un écran mal compris, ça peut être challenger le contenu d'une infobulle qui est plus confusant que guidant. Bref, sur ce type de sujet, on peut parfois travailler en toute autonomie, c'est vraiment des problématiques wording. Ensuite, dans les autres projets qu'on peut avoir, la reprise d'un parcours existant, par exemple, c'est travailler sur quelque chose qui existe déjà. Par parcours, j'entends une succession d'écrans qui mènent l'utilisateur vers un produit, vers un tarif ou vers un devis. Donc, ici, on travaillera sur une copie déjà existante, sur une ou plusieurs briques, sur l'ajout d'une option, d'une fonctionnalité. Tout ça peut avoir des impacts, évidemment, sur l'UX, évidemment, sur l'IT. Ici, on sera dans un travail collaboratif. Et la création d'un nouveau parcours from scratch, là, on sera sur un projet qui engage vraiment un cercle plus large de parties prenantes. Et là, l'UX Writer et l'UX Designer seront au cœur du réacteur sur la phase de conception. Ça intègre également la co-animation d'ateliers, la présentation de benchmarks, la participation à l'élaboration de tests utilisateurs. On sera également ensuite à la manœuvre pour définir une cinématique globale de parcours, pister de façon très fine les trajectoires et travailler ensuite sur des wireframes plus précis pour finaliser une copy wording propre. Autrement dit, on est vraiment partie prenante du projet et non pas la simple cerise sur le gâteau. Concernant les outils, on ne réinvente pas la roue, nous les UX Writers, on est sur du wording. Donc, qui dit wording, dit Word. Word, c'est un peu la base, traitement de texte, ça nous permet d'échanger, etc. En revanche, quand on va être sur des parcours avec plusieurs scénarios, plusieurs embranchements, plusieurs écrans d'entrée, de sortie, de tarification, on aime bien utiliser Excel et on l'utilise de plus en plus parce qu'il a de nombreux avantages. On peut associer des formules aux cellules, on peut compter nos nombres de caractères par cellule, ce qui facilite un peu la vie de lui, ça nous évite d'exploser des calibrages. Voilà. Et sinon, on s'inscrit également dans les outils de l'UX Designer, même si on ne les utilise pas en première main, on peut intervenir dessus. Sketch notamment pour la formalisation des wireframes, InVision pour commenter des prototypes. Voilà. Et puis parce que faire c'est bien, mais partager c'est mieux, on utilise aussi beaucoup de solutions collaboratives. Ici en interne, on utilise Confluence par exemple, ou Teams. Peut-être, pourquoi pas, d'autres solutions.
Alors Yann, tu nous as dit donc un peu plus tôt que tu ne travaillais pas exclusivement sur des sujets d'UX Writing. Alors est-ce que c'est un avantage finalement pour toi? Je pense notamment peut-être en termes de connaissances de produits, de vision de bout en bout, etc.
Alors moi, je n'ai pas trouvé de meilleure méthode pour se sensibiliser à l'univers d'un client que d'écrire pour lui. Écrire des contenus, conseils, des actualités, etc., ça nous permet quoi? Ça nous permet de connaître les produits sur lesquels on écrit, le contexte concurrentiel de l'assureur, le ton qu'on doit adopter aussi vis-à-vis de notre client pour qu'il comprenne ce qu'on peut lui dire. Donc tout ça, ce sont autant d'atouts dans une cellule de conception sur un parcours UX. Parce qu'à la fois, on a une vision assez claire du produit, on n'est pas des actuaires, d'accord, mais on a aussi une vision à peu près claire à qui il s'adresse. Bref, nous portons aussi cette expertise dans les réunions et pas simplement l'expertise tone of voice, simplification.
Au sein de ton équipe, comment évaluez-vous dans la durée la performance des actions X-Writing que vous réalisez? Alors, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Donc, quels sont les indicateurs clés de performance que tu suis?
Tu as raison, Christophe, la question des KPI, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est comme ça qu'on mesure la pertinence d'une action et qu'on assoit la légitimité d'une démarche et d'une méthode. Ceci étant, ben, l'UX Writing, elle intervient sur quoi? Elle intervient sur des mots, sur du langage, sur un domaine qui est, hein, si on parle de sciences molles pour la littérature, c'est bien qu'on n'est pas sur quelque chose de mathématique et de cartésien. Et de plus, comment distinguer ben, l'apport d'un wording dans une expérience digitale globale? L'utilisateur, quand il va sur un site internet ou sur une application, se dit pas la créa est jolie, les mots sont bien écrits. C'est l'ensemble qui fait sens pour lui. C'est pour ça que dans cette recherche de KPI, et c'est une recherche, une réflexion qui est toujours en cours, hein, on n'a pas trouvé la réponse magique à cette question, on va miser sur des KPI globaux qui sont fonction des projets sur lesquels on intervient. Un exemple, un parcours de souscription, ben, ce qu'on veut mesurer, c'est s'il marche ou s'il ne marche pas. On va mesurer le taux de conversion, le nombre d'abandonnistes. Et parfois, on va avoir une vision plus fine, écran par écran, pour savoir précisément à partir de quand notre utilisateur décroche. Donc, ces indicateurs quantitatifs, ils concernent à la fois l'IT, puisque ça peut être lié aussi à des solutions IT qui sont défaillantes. Ils concernent le design, ils nous concernent également, nous, en termes de wording. On va s'apercevoir que ben, tel message est trop compliqué à assimiler par l'utilisateur. Ou alors qu'en voulant expliquer une notion jurisprudentielle, on l'a perdu. En fonction de ces indicateurs quantitatifs, on va pouvoir définir un certain nombre d'améliorations. Et puisqu'on est sur les mots, sur du ressenti, sur de la sensibilité, on double aussi ça d'études qualitatives, mais sur lesquelles il faut avoir un petit peu de recul dans l'interprétation des résultats. Des études qualitatives, ça va être des tests utilisateurs, ça peut être aussi des formulaires type Usabilia qu'on va plugger à la fin de nos parcours pour obtenir du feedback. C'est à la fois très intéressant parce que il y a certaines problématiques qui sont soulevées qu'on ne voit tout simplement pas. Parce que parfois, même si on dit se mettre à la place de l'utilisateur, c'est très important, et même si on a le sentiment de tous le faire, et bien parfois on n'est pas l'utilisateur, et parfois il va remonter des choses que personne n'avait vues et qui semblent comme le nez au milieu de la figure. Bon sang, mais c'est bien sûr. En revanche, il y a un biais. Il y a un biais pourquoi? Parce que ce type de feedback qu'on collecte sera forcément orienté vers ce qui n'a pas marché. On n'aura pas de feedback pour nous confirmer l'intérêt de telle ou telle formulation. On aura plutôt de la même façon qu'on écrit rarement sur le forum de la SNCF quand les trains arrivent à l'heure. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre et trier le bon grain de livret sur ce type de retour. En tout cas, il participe à la définition de KPI globaux, puisqu'on peut associer aussi une note de satisfaction qui est, elle, une synthèse entre le quantitatif et le qualitatif.
Alors Yann, donc cette difficulté à isoler la portée des actions, de tes actions X-Writing, n'est-elle pas le signe que le travail digital que tu effectues est avant tout le travail d'une seule et même équipe pluridisciplinaire?
C'est intéressant ce que tu dis, Christophe, parce que nous, on a eu plusieurs stades de l'X-Writing chez nous. On a eu d'abord un stade où on avait un droit de regard hein, sur les protos. On regardait ça une fois que le projet était abouti, fini. Et ce n'était pas le plus confortable puisque quand on avait des changements à proposer pour faciliter l'expérience utilisateur, ça pouvait avoir des conséquences sur des étapes qui étaient déjà effectuées en amont. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les mots sont partout. Et que même présent au sein d'une réunion IT, tel choix de telle solution aura un impact sur le discours que je vais délivrer à l'utilisateur. Donc, au final, les mots, c'est vraiment transverse. Donc, on a notre place effectivement partout et on est vraiment dans cette équipe pluridisciplinaire de web marketeurs, de gens de l'IT, du UX designer, du UI. Et ce qu'on voit apparaître de plus en plus en ce moment, ben, c'est l'organisation autour de ces projets de véritables task force ou feature team, où effectivement l'UX writer est embarqué dès le début. Donc on tend même à s'arracher de nos équipes traditionnelles de production de contenu pour dès lors ben, avoir comme interlocuteurs des développeurs, des business owners sur des tas de problématiques qu'on ne cernait pas ou qui n'étaient pas dans notre scope auparavant. Donc oui, je pense qu'effectivement, très difficile d'isoler cette partie par rapport au tout qui est la coordination de ce genre de projet un peu ambitieux.
Yann, une dernière petite question pour terminer ce podcast, et non des moindres, dans un métier où être focus et concentré est essentiel, quelles sont les musiques d'ambiance qui accompagnent ton travail du X-Writer?
Bonne question. Moi, j'écoute énormément de musique dans tous les styles différents, mais alors quand je fais de l'UX writing, c'est toujours le même album qui tourne dans mes oreilles. C'est Apollo de Brian Eno. C'est un album d'ambiance très planant. Il n'y a pas de paroles pour divertir l'attention, mais en même temps, bah, il nous emmène un peu ailleurs et ça permet de voir les choses parfois sous un autre angle.
Excellent album, Yann. Un standard de l'ambiance, je valide. Et comme moi aussi j'aime ce genre musical, bah, je vous partage aussi une excellente compilation regroupant des pointures de l'ambiance japonaise, Kangyo Ongaku. Une bonne manière de vous concentrer si vous faites de l'UX writing. Vous pourrez donc écouter cette compilation sur le post du podcast et nous retrouver donc sur le guide de l'UX writing à l'adresse www.uxwritingtoutattaché.fr. Ah, et une dernière chose, si ce podcast vous a plu ou pas d'ailleurs, donnez-nous un peu de feedback. Promis, on fera des efforts pour nous améliorer et vous proposer un podcast qui déchire vraiment. Bonne écoute et au mois prochain pour un nouveau podcast de l'UX Writing.